Radio Okapi. Il est urgent que les autorités du pays trouvent la solution au conflit qui déchire les Tékélé et Yaka. Ainsi a déclaré le cardinal Fridolin Mbongo, de retour d'une mission de réconfort de 4 jours auprès de la population de Kwamout et ses environs. Bilan d'accident de circulation de Louboudi dans le Lualaba revu à la hausse. Il passe de 19 à 34 morts. L'administrateur du territoire plaide pour que le contrôle soit effectué à partir des lieux de départ pour éviter que des camions ne transportent des passagers qui mettent leur vie en danger. La RDC occupe la troisième place en Afrique francophone des pays où la transparence budgétaire est garantie. Bishop Abraham Djamba salue l'ouverture des autorités congolaises face au plaidoyer de la société civile et plaide pour le vote d'un budget pro-pauvre qui accorde au moins 50% aux secteurs sociaux de base. Il sera notre invité à la fin de cette édition. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Conflit Tékélé-Yaka, Fridolin Mbongo, le cardinal, revient d'une mission pastorale de réconfort auprès de la population de Kwamout et ses environs. Durant 4 jours, le cardinal a eu à rencontrer les fidèles catholiques de ces territoires, des victimes des actes de barbarie perpétrés par des personnes non encore bien identifiées. Pour ce prix-là, il est urgent que les autorités du pays trouvent la solution à ce problème car l'insécurité est à la porte de la capitale Kinshasa. On écoute Fridolin Mbongo au micro de Jeff Ngoy.
L'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer parce que ça peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous entendons. N'oublions pas que Kwamout, c'est la porte d'entrée de Kinshasa. Tout ce qui est navigation sur le fleuve, toutes les eaux du pays passent par Kwamout, soit par le fleuve venant du nord, soit par la rivière Roi, qui ramasse toutes les eaux du Kasaï, de Kwilu, de Kwango, etc., ou du Maïndombe. Tout ça, ça passe par Kwamout. Et s'il y a une sécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie. La nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer, parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit.
Pendant ce temps, l'administrateur du territoire de Bagata au Kwilu, Joseph Mankoto, appelle toute sa population au calme, à la retenue et à la cohabitation pacifique. Cet appel intervient ce mercredi 28 septembre après sa descente mardi à Fatundu dans le secteur de Wamba où le village Bukusu a été attaqué par des assaillants armés du conflit Tékélé-Yaka et où 12 de ses suspects ont été arrêtés, créant ainsi la panique dans le coin et le déplacement massif des populations. Il appelle la population à collaborer avec les services de sécurité pour dénoncer tout suspect. Joseph Mankoto est joint par Irène Mboma.
La situation est relativement calme et sous contrôle. Je suis à Fatundu depuis hier. On travaille là-dessus. Le message, c'est le message de la paix. De la paix et aussi de la cohabitation pacifique. Je demande à toutes les femmes, tous les hommes, toute la jeunesse du territoire de Bagata à cultiver la paix. À cultiver la paix parce que nous avons toujours été ensemble, la cohabitation pacifique. Alors, nous bannissons le virus de la haine, de la division. Je dis à toute la population de Bagata de vaincre la paix et ne cédez pas à la panique. Et aussi, je ne veux pas les règlements des comptes. Parce que quand vous faites les analyses, il y a aussi des règlements des comptes. Et aussi, je ne veux pas la justice populaire. La population a son rôle d'apporter des informations fiables vers les autorités et laisser le travail au service, habilité de faire le travail. Donc, les autorités, tant au niveau national, provincial, et nous aussi, nous travaillons pour le retour de la paix et de la cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. Voilà le message.
Toujours au Kwilu, le mouvement citoyen dénommé Communauté des jeunes leaders appelle les autorités du pays à restaurer la paix et à stabiliser la situation sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national, principalement à Kwamout, au Maïndombe, pour garantir les élections générales en 2023. Dans une déclaration faite à Radio Okapi ce mercredi, cette structure de la société civile dit ne tolérer aucune esquisse en ce qui concerne l'organisation de ces élections dans les délais constitutionnels. Suivant un extrait de leur déclaration lu par Serge Nakweti, le coordonnateur provincial, ce que nous propose Irène Bouma.
Considérant les processus électoraux de 2018, où les élections partielles ont été organisées suite à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et le massacre de Yumbi qui a fait au moins 500 morts selon l'ONU. La CEGEL voit aux multiples agressions et aux faibles efforts de pacification de l'est de la RDC, auxquels s'ajoute le conflit interethnique entre Teke et Yaka dans le territoire de Kwamouk qui a déjà fait des milliers de déplacés, des morts et des incendies, une raison de plus qui risque de conduire à la non-tenue des élections générales. Nous ne tolérerons aucune esquisse en ce qui concerne l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. La CEGEL invite le gouvernement à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays avant le début des opérations d'enrôlement, à déclencher les processus de retour des déplacés de Kwamouk et de l'est de la RDC, car cette situation est de nature à causer un faible taux d'enrôlés. La CEGEL met en garde tous les politiciens véreux impliqués dans ces conflits interethniques et exige une enquête sérieuse pour identifier les instigateurs. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement, même d'un seul jour.
Autre nouvelle, environ 26 000 personnes reçoivent des vivres fournis par le Programme alimentaire mondial PAM à Lita et Linga dans l'Ituri et Bélé dans la province du Haut-Touélé. Ce sont des déplacés, des réfugiés qui ont fui les attaques des groupes armés dans leur milieu. Cette distribution est effectuée conjointement par l'ONG AGEDEC, Association des jeunes pour le développement communautaire, en collaboration avec l'ONG Caritas Développement. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Cette distribution qui a démarré le 24 septembre dernier s'étend jusqu'au 30 de ce mois. Pour la zone de santé de Lita, par exemple, ce sont 2 419 ménages qui sont concernés. Ces derniers proviennent de plusieurs entités, dont Loga, Tché, Torgues et Singo, situées sur le littoral du lac Albert où opèrent des groupes armés. Pour les assister, le PAM a disponibilisé 124 tonnes de vivres, a indiqué le responsable de l'ONG AGEDEC. Aimé Birido précise que c'est pour la première fois que ces personnes bénéficient d'une assistance en vivres. D'autres ménages ciblés, environ 6 306, sont ceux de la zone de santé de Linga où cette fois c'est l'ONG Caritas qui pilote cette distribution. Les bénéficiaires sont des habitants des localités de Gosenge, Bouba et Linga. Dans le territoire de Farage, cette fois dans la province du Haut-Ouélé, précisément à Bélé, ce sont 211 ménages de réfugiés sud-soudanais qui reçoivent des vivres. Signalons que les personnes assistées reçoivent de la farine, de maïs, du haricot, de petits pois et de l'huile végétale. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Et puis en plus bref, au sud Kivu, l'ancien président français François Hollande séjourne depuis hier soir à Bukavu. Il a participé à l'inauguration dans la matinée de ce mercredi aux côtés du docteur Denis Mukwege, un nouveau bloc opératoire au sein de l'hôpital général de Panzi. Cette unité est spécialisée dans la chirurgie minimale invasive et une technique d'opération sans faire de larges incisions grâce aux appareils ultramodernes qui permettent au chirurgien d'atteindre sa cible au centimètre près à l'aide des instruments longs et fins, le tout contrôlé grâce à un écran. François Hollande était accompagné de son épouse Julie Gayet, l'ambassadeur de France, ainsi que des ministres congolais de la Santé et des Droits humains. Et puis l'Assemblée nationale a adopté hier mardi le projet de calendrier de la session de septembre 2022, une session essentiellement budgétaire, en plus des projets de loi de finances pour l'exercice 2023, ainsi que celui portant réduction des comptes pour l'exercice 2021. Plus d'une cinquantaine d'autres projets et propositions de loi sont retenus pour examen au cours de cette session. Parmi les matières non législatives retenues, il y a l'enterrement des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le contrôle budgétaire et l'examen des rapports périodiques et annuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le bilan de l'accident survenu dans le territoire de Louboudi lundi dernier sur la route nationale est revu à la hausse. Il est passé de 19 à 34 morts. L'administrateur du territoire plaide pour que le contrôle soit effectué à partir des lieux de départ des voyageurs pour éviter que ces camions ne transportent des passagers qui mettent leur vie en danger. Jean Gandou pour les détails.
Le grand camion, outre les passagers, transportait aussi un minibus à bord duquel d'autres voyageurs avaient pris part. Ils étaient 15 au total, tous sans mort. Leurs corps ont été retrouvés lorsque l'on relevait le grand camion, ce qui porte à 34 le nombre de décès. Tous ont été enterrés à 4 km du lieu de l'accident, car avec la chaleur, il y a des corps qui dégageaient des odeurs et d'autres se décomposaient, à en croire l'administrateur du territoire de Louboudi. Notons que les blessés graves ont été transférés à Kolwezi. Et l'hôpital général de référence de Louboudi, qui accueille les blessés, a bénéficié d'un lot important de médicaments, amené par la délégation dépêchée par le gouvernement provincial du Lualaba. Quant au chauffeur du grand camion qui a survécu, il est gardé à la police à Louboudi. D'après l'autorité territoriale, cet homme était dans un état d'ébriété et des bouteilles d'alcool ont été retrouvées dans sa cabine. Clémentine Lutanda, qui déplore ce énième cas d'accident, voudrait qu'un contrôle sévère soit effectué au lieu d'embarquement pour empêcher que des camions ne transportent des passagers qui souvent voyagent dans de mauvaises conditions, entassés et placés au-dessus des marchandises, et cela au péril de leur vie. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kassa oriental, depuis ce lundi en Mbujimayi, de la vente publique d'un deuxième lot de maïs constitué de 5000 sacs de maïs produits par le service national de Kanyama-Kassissi. Dans une mise au point avec la presse ce lundi, la commissaire générale en charge de la communication et des médias a indiqué que le premier lot de 1000 sacs ainsi que le deuxième de 5000 sacs ont été découverts par les services de sécurité dans des dépôts clandestins au grand marché Bakwadianga dans la commune de Dibindi. Acheté à 42 500 francs congolais, le sac de 50 kilos de maïs de Kanyama-Kassissi s'est négocié déjà 60 000 francs congolais dans les dépôts clandestins. Au cours de cette mise au point avec la presse, Sylvie Mbouyi demande à la population de dénoncer toute personne qui se lance dans cette pratique. Elle s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat de province.
Il est convenu que chaque personne paye un sac de 50 kilos de maïs à 42 500 francs congolais. Force est de constater que certaines personnes qui sont contre le développement de la province de Kassai orientale recourent aux pratiques illicites et rétrogrades pour remettre l'argent aux personnes de leur connaissance pour s'approvisionner en quantité exorbitante pour revendre aux compatriotes à un prix élevé que celui prévu au départ. À cet effet, les services de renseignement et certaines personnes de bonne volonté ont dénoncé cette pratique, ce qui a permis à la province de saisir 5000 sacs de maïs au marché de Bakwadian. Aujourd'hui, nous sommes au-devant de vous pour condamner cette pratique. C'est pourquoi il a été décidé de revendre ces 5000 sacs de maïs au prix convenu de 42 500 francs congolais et les concernés seront déférés devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes.
Et puis au sud Kivu, le prix des denrées alimentaires ainsi que celui des produits manufacturés deviennent intenables dans la majeure partie du territoire de Shabunda. Deux raisons justifient cette cherté de la vie selon la sœur religieuse de la congrégation des missionnaires du divin, maître de Shabunda. Marie Antonia cite notamment l'absence d'infrastructures routières, mais aussi le boom minier dans la région. Suivez cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Le ciment aujourd'hui coûte 85 dollars dans ces magasins ici à Shabunda. Tout ce qui est nourriture est excessivement cher à Shabunda. C'est pour cela que nous avons besoin de la route pour que les aliments de côté Matili, de côté d'Imaniema, puissent arriver à Shabunda et nous puissions un peu respirer parce que nous sommes en train d'être étouffés par des prix incroyables. Ici, il y a les arachides, les maniocs et les riz. Il y a aussi des bananes.
Les prix des produits locaux, c'est accessible?
Ce n'est pas accessible parce qu'il y a ici plusieurs points miniers. Et normalement, eux, ils ont de l'argent pour payer, mais la population n'a pas l'argent pour payer. Alors, comme il y a peu de quantités, beaucoup partent dans les points miniers pour les vendre un peu plus cher. Et la population ici au centre de Shabunda, nous payons très cher.
Autre nouvelle, au Nord Kivu, les sites touristiques en milieu urbain doivent être valorisés en vue de faciliter des recherches scientifiques. Cet appel vient de la plateforme U-Report Butembo, une structure des jeunes parrainée par l'UNICEF. L'objectif est de valoriser les sites touristiques qui sont désertés en raison de la sécurité qui ne permet plus la fréquentation de plusieurs endroits. Cette suggestion a été faite lors de la Journée internationale du tourisme, célébrée chaque année le 27 septembre. Pour marquer l'événement, une visite de la réserve forestière dite de la Moussoussa a été organisée. Un reportage rendu par Blaise Ndongala.
Il s'agit des jeunes, membres de la communauté Iriport Boutembo, qui ont fait le tour de cette réserve d'une quarantaine d'hectares, située à 5 km du centre-ville. Des espèces végétales comme animales sont retrouvées dans la réserve forestière de la Moussoussa, qui porte le nom de la rivière qui sert de limite entre les territoires de Lubero et la ville de Boutembo, dans la commune de Kimemi. D'où l'appel de cette structure pour la valorisation et la protection de ces sites touristiques. Epi Katina est le team leader de Iriport Boutembo.
C'est un avantage que nous avons à avoir cette réserve à ville de Boutembo, vu la situation sécuritaire qui ne permet pas que nos chercheurs puissent se déplacer. Et nous devons tous nous impliquer pour que cette réserve puisse aussi attirer les autres touristes vers chez nous.
Sentiment de satisfaction pour les participants. Mademoiselle Eve Luando, membre de cette structure, dit être surprise de découvrir une mini-réserve de ce genre en milieu urbain.
Je ne savais pas qu'il y avait une réserve forestière au niveau de la ville. C'est pour moi vraiment une belle occasion et ça me fait du bien de savoir qu'il y a une forêt à plein milieu urbain qui peut nous aider.
Notons qu'à cette occasion, la communauté Iriport Boutembo a consacré cette semaine à l'éducation environnementale afin de mettre en exergue les avantages ou la nécessité de protéger leur environnement, indiquent les animateurs de cette plateforme.
Actualité internationale.
En international, des dizaines de drones israéliens sont déjà opérationnels au Maroc, révèle la firme israélienne Bluebird Aerosystems, société spécialisée dans la défense aérienne, qui confirme la commande de drones de forces armées royales marocaines, conformément à la série d'accords militaires entre Rabat et Tel Aviv. Une partie des appareils sera fabriquée au Maroc.
L'invité.
Publication hier mardi de l'enquête internationale sur le budget ouvert. La RDC occupe la troisième place en Afrique francophone des pays où la transparence budgétaire est garantie. En termes de participation du public dans l'élaboration du budget, la RDC est le pays pionnier en Afrique et occupe la sixième place au monde avant même les États-Unis. D'après le secrétaire exécutif national du REGED, réseau qui a présenté ses rapports devant plusieurs autorités du pays, dont le procureur général près la Cour des comptes, le problème actuellement se pose au niveau de la répartition et du contrôle budgétaire. Bishop Abraham Djamba salue l'ouverture des autorités congolaises face au plaidoyer de la société civile et plaide pour le vote d'un budget pro-pauvre qui accorde au moins 50% aux secteurs sociaux de base. Bishop Abraham Djamba est notre invité dans cette édition. Il s'entretient avec Michel Kifinangoy. Suivez.
Bishop Abraham Djamba, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la situation de la transparence budgétaire en RDC par rapport à d'autres pays d'Afrique?
Oui, cette enquête évalue la transparence budgétaire pour 120 pays à travers le monde. Et la RDC a recueilli la cote de 42%. Si l'on doit comparer avec les autres pays africains, la RDC en rapport avec les pays de l'Afrique francophone est troisième. Devant la RDC, il y a le Bénin, il y a aussi la Côte d'Ivoire. Mais ce que je peux dire par rapport à la transparence elle-même, c'est que il y a une évaluation qui s'est faite sur la capacité du pays à pouvoir mettre à la disposition du public et particulièrement des citoyens l'information budgétaire en rapport avec les budgets.
Mais au moins, la RDC est sur un très bon trajectoire parce qu'on est parti de 1% jusqu'à plus de 40%.
Oui, on était à 1% en 2008. Nous saluons cette avancée. D'ailleurs, au niveau international, ça a été salué, ça a été noté pour la RDC. Mais nous considérons quand même qu'il serait grand temps que nous puissions vraiment faire un bond pour que cette question soit vraiment définitivement réglée.
L'enquête sur le budget ouvert s'est aussi penchée sur la participation du public. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut affirmer qu'en RDC, le public participe efficacement à l'élaboration et même à l'exécution du budget?
Oui, vous pouvez le voir dans les résultats, c'est que depuis deux enquêtes déjà, l'enquête 2019, le Congo avait 31%, ce qui représentait la première place en Afrique. Cette première place a été confirmée encore par l'enquête 2021, où le Congo a 35%, donc premier pays en Afrique, mais considéré dans le monde, le Congo est le sixième pays, devant même les États-Unis, le sixième pays qui fait participer ses citoyens dans le processus budgétaire. Pourquoi? Parce que lors de l'élaboration du budget, la société civile est impliquée au niveau du séminaire d'orientation budgétaire et au niveau de conférences budgétaires, ce qui n'est pas encore une pratique répandue en Afrique, donc nous sommes pionniers.
Mais si la société civile participe activement à l'élaboration du budget, mais pourquoi nous avons toujours un budget beaucoup plus institutionnel et les pro-pauvres semblent toujours être oubliés?
C'est un pas. La participation des citoyens au budget est réelle. Nous y participons depuis 2012. Ça, c'est vraiment une décision qui avait été prise. Donc, le mécanisme est là. Maintenant, nous travaillons pour que le contenu soit amélioré.
Puisque vous avez participé à l'élaboration du budget 2023, quel a été votre plaidoyer en ce qui concerne, par exemple, le budget de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et des infrastructures?
Le budget de l'éducation, nous avons toujours milité, ça fait plusieurs années, pour qu'il passe à plus de 20%. Et je crois que sur cette question-là, nous avons été entendus au fil de temps. Et maintenant, nous sommes à peu près à 21%. Alors, pour le budget de la santé, nous poussons le gouvernement à pouvoir accorder au moins 15% du budget. Ça, c'est un engagement du gouvernement, parce que si on a ce minimum de 15%, on aura déjà suffisamment une cagnotte pour pouvoir couvrir les besoins en couverture sanitaire universelle. En ce qui concerne l'agriculture, nous demandons un minimum de 10%. Avec le budget de 14 milliards, 10%, vous avez à peu près 1,4 milliard. C'est largement suffisant pour couvrir les besoins annuels que demande le secteur de l'agriculture pour l'année.
Peut-être que le problème se pose au niveau de l'exécution et du contrôle budgétaire, parce que nous constatons chaque année, quand on évalue la reddition des comptes, il y a toujours des dépassements budgétaires de 100%, parfois même jusqu'à 1000% pour certaines institutions politiques. Est-ce que le problème n'est pas au niveau du contrôle budgétaire?
Oui, l'enquête regarde toutes ces questions-là. C'est ainsi que vous voyez que nous n'avançons pas tellement. Les pays comme l'Afrique du Sud fait toujours partie des pays de tête, parfois première, parfois deuxième. Et donc, ces questions sont regardées, mais on considère que le point de départ, c'est d'abord au niveau de l'élaboration et du vote. Alors, on suppose que si le vote a été correctement fait, l'exécution devrait suivre. Mais effectivement, dans notre pays, nous avons des problèmes parce que l'exécution ne respecte pas toujours les autorisations données par l'autorité budgétaire.
Bishop Abraham Djamba, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, fin de cette édition mise en onde par Jean-Noël Mokondo. Merci à toute l'équipe rédactionnelle à travers les pays sous la coordination de Lisée Chikota et la supervision de Ben Kabamba. Merci pour votre particulière attention.